Entre l'armée rwandaise et celle de la République démocratique du Congo, les combats s'intensifient. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de pourchasser les rebelles du M23 en profondeur de Bunagana dans le groupement de Djomba, territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Jusqu'à 8 heures heure locale, ce lundi, l'armée a annoncé avoir encore le contrôle de Bunagana, cité frontalière avec l'Ouganda. Plusieurs habitants de Bunagana se sont cependant déplacés en Ouganda depuis dimanche matin lorsque l'ennemi tentait de prendre cette ville. Il est évident que la popularité a vidé Bunagana, ce qui est un réflexe tout à fait normal lorsque les balles crépitent, mais je vous assure que Bunagana est sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, a confirmé le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, et d'ajouter que les Rwandais et leurs alliés du M23 ne respectent pas le droit international humanitaire. Ils larguent tous des bombes, même sur la population civile, en plein centre de Bunagana. Donc, il est très important que notre population se mette à l'abri. Mais qu'à cela tienne, la situation reste sous le contrôle de l'armée loyaliste à Bunagana. Les FARC ont déjoué dimanche les attaques contre leur position par les M23 et leurs alliés, les Rwandais. Les rebelles ont tenté d'attaquer les positions de Kigega 1 et Kigega 2 en profondeur de Bunagana. Ils ont également tenté de couper la liaison entre les FARC de la route, donc Rutshuru-Bunagana, à l'endroit appelé communément Prémidis. Les FARC se sont comportés donc professionnellement en déjouant cette tentative de coupure de liaison, mais aussi repousser l'ennemi des positions de Bigega 1 et Bigega 2. L'ennemi s'est replié vers Tchanzu et Runyoni, et où il a continué donc à subir la pression des FARC, a dit le colonel Djike. Plusieurs habitants de Bunagana ayant fui les affrontements repris dimanche entre les FARC et les rebelles du M23 se retrouvent de l'autre côté de la frontière en Ouganda. Les animateurs de l'administration publique locale ont également traversé la frontière. La situation est restée confuse toute la journée dans la cité de Bunagana. Difficile de préciser qui l'occupe, mais la population a vidé la cité. Jusqu'en début de la soirée, les réfugiés congolais donc se trouvaient toujours dans la zone neutre entre la RDC et l'Ouganda. Les autorités ougandaises ont mis à la disposition des Congolais des camions devant les acheminer dans un camp des réfugiés, mais nombreux ont refusé pour l'instant d'être acheminés, préférant rester dans la zone neutre pour observer l'évolution de la situation à Bunagana. Seulement quelques habitants retournent, soit pour récupérer des effets, mais nombreux hésitent encore. Les habitants ont refusé de monter dans les véhicules pouvant les amener dans un camp de réfugiés. Ils préfèrent rester dans la zone neutre. Je suis déjà rentré à Bunagana, mais la situation est volatile. Je ne sais pas où est-ce que je vais dormir et je n'ai rien à mettre sous la dent, témoigne un autre Congolais qui est retourné à Bunagana en début d'après-midi de ce lundi. L'armée congolaise a accusé dimanche le Rwanda d'avoir soutenu les rebelles du M23 pour mener de nouvelles attaques dimanche dans l'est de la RDC où de violents combats se poursuivaient donc en soirée. L'offensive a visé la ville de Bunagana, ex-fief de ce mouvement rebelle repris par l'armée congolaise en 2013 et d'autres localités dans la province du Nord Kivu à la frontière avec l'Ouganda. Dans un communiqué, l'armée congolaise a accusé donc les terroristes du M23 soutenus par l'artillerie et les militaires de l'armée rwandaise d'avoir attaqué ces positions près de Bunagana. L'objectif poursuivi par le Rwanda est d'occuper Bunagana pour non seulement asphyxier la ville de Goma, donc le chef-lieu du Nord Kivu, mais aussi faire pression sur le gouvernement congolais, comme l'a affirmé dans un communiqué le général Sylvain Ekenge, le porte-parole du gouverneur militaire de la province, placé en état de siège par les autorités de Kinshasa. Les assaillants ont été mis en déroute après avoir perdu plusieurs des leurs, a-t-il assuré. Un soldat congolais a également été tué. Plusieurs sources locales et militaires ont fait état de combats se poursuivant aux abords de Bunagana dans la soirée. Un officier a déclaré, donc sous couvert d'anonymat, que les soldats congolais étaient en train de repousser les rebelles dimanche après-midi et que les combats se poursuivaient. Le porte-parole du M23, Willy Goma, a confirmé que de très violents combats continuaient tout près de la ville, accusant les forces de l'ONU, la MONUSCO, d'avoir pilonné
les positions rebelles à trois reprises. Selon Sebou Sanane, donc le responsable d'une association locale de la société civile, la plupart de la population a fui donc le centre de Bunagana, important point de passage pour les marchandises entre le Congo et l'Ouganda. Le Mali est opposé à l'intervention de Barkhane sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a prononcé un discours ce lundi au siège des Nations Unies à l'occasion de l'examen par le Conseil de sécurité du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali. Ce fut l'occasion pour lui de s'opposer au nom du gouvernement du Mali à l'intervention des forces françaises sur le sol malien. Les observations du Mali par rapport au rapport de la MINUSMA. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que le mouvement signataire ont dénoncé l'enrôlement de 2000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a reçu aucune plainte d'un quelconque groupe dans ce sens, a déploré le ministre. Et pourtant, selon lui, le recrutement spécial initié par l'état-major général vise les éléments des groupes d'autodéfense ainsi que la récupération des armes. En aucune manière, ce recrutement ne saurait interférer avec le processus de désarmement, démobilisation, réintégration, réinsertion de l'accord qui concerne les combattants des mouvements signataires de l'accord déjà enregistrés dans la base de données de la Commission nationale DDR, précise le chef de la diplomatie malienne qui ajoute que sa signature à nos jours, la mise donc en œuvre de l'accord, a connu des avancées notoires qui ont été accomplies notamment sur le plan politique, sécuritaire, du développement, de la justice et de la réconciliation. Pour Diop, les recommandations des Assises nationales de la refondation de décembre 2021 participent de l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord, notamment celle relative à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour instituer, entre autres, le Sénat et l'accélération du processus de décentralisation et de déconcentration de l'État. Cette tribune a été l'occasion pour le ministre Diop de déclarer que, sur la situation sécuritaire, le gouvernement indique qu'avec la montée en puissance des forces armées maliennes, des résultats probants ont été enregistrés sur le terrain, notamment la neutralisation d'importants membres de katibas terroristes, la récupération des matériels, la libération des localités du joug des terroristes, la destruction des sanctuaires terroristes et le retour de populations déplacées. Concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le Mali a fait des observations. Pour Diop, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Le Mali trouve indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique. Aussi recommande-t-il de clarifier contre qui on veut protéger les populations. Dans ce contexte, le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes, a-t-il indiqué. Durant ce nouveau mandat de la MINUSMA, le Mali pose des conditions, l'interdiction de l'intervention de Barkhane sur son territoire. De même, dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane après la décision unilatérale de retrait de la dite force, de la dénonciation donc par le Mali des accords de défense avec la France. Nous en appelons au respect de la souveraineté du Mali et des décisions prises par les autorités maliennes à cet égard, a déclaré le ministre Abdoulaye Diop. Il a également souligné la nécessité d'une meilleure coordination des actions de la MINUSMA avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'accomplissement de son futur mandat. Le gouvernement du Mali souligne également la nécessité pour la MINUSMA de travailler étroitement et véritablement avec les autorités et les parties prenantes maliennes pour aider le Mali à protéger ses populations civiles et à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire, précise Diop. Le gouvernement du Mali a aussi démenti les restrictions sur la MINUSMA, sur les allégations donc de restrictions imposées À la MINUSMA, il est à préciser que le gouvernement malien n'a pris aucune mesure restrictive visant particulièrement la MINUSMA. La mise en place de mesures de restriction temporaire sur une partie de l'espace aérien national, qui est une décision souveraine, vise un double objectif, a-t-il déclaré. Le premier, c'est de protéger les forces maliennes engagées dans une nouvelle posture dynamique et offensive pour reprendre l'initiative et réduire la capacité de nuisance des groupes terroristes sur les populations maliennes. Le deuxième objectif est, dit-il, de maîtriser les risques pour le trafic aérien liés à l'utilisation intensive de la troisième dimension par les forces maliennes, notamment avec des vols d'aéronefs militaires, y compris sans pilote, et des tirs d'artillerie fréquents. Il affirme que la sécurité et la sûreté des usagers de l'espace aérien malien constituent une responsabilité régalienne de l'État. Il est à noter que tous les vols demandés par la MINUSMA sont autorisés dès lors que la coordination nécessaire est faite, que les risques à la circulation aérienne sont maîtrisés et que cela n'interfère pas de manière négative dans les opérations militaires en cours, a-t-il affirmé. En ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel, le ministre Diop a rappelé les efforts du gouvernement malien. Par ailleurs, il a attiré l'attention du Conseil sur les risques de politisation et d'instrumentalisation des droits de l'homme aux fins d'agenda caché et sur la multiplicité donc des mécanismes des droits de l'homme et leur poids croissant sur le fonctionnement de l'administration malienne dont les cadres doivent répondre à leurs sollicitations nombreuses, simultanées et souvent pas coordonnées au moment où les populations ont le plus besoin de leurs services. La rencontre donc d'hier a été également l'occasion de rejeter les allégations de violation des droits de l'homme au Mali. Et pour clore ce chapitre des droits de l'homme, je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali a rejeté certaines allégations de violation et d'atteinte aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité maliennes dans la dernière note trimestrielle de la MINUSMA. Nous sommes rendus compte que ces allégations sont tendancieuses, non recoupées, rapportées selon des témoignages non contradictoires et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Je saisis cette occasion pour rejeter totalement la fausse impression que cette note trimestrielle de la MINUSMA donne et selon laquelle les violences exercées par les forces maliennes ciblent des personnes appartenant à certaines communautés ethniques. D'évidence, ces allégations ont pour objectif de ternir l'image des forces armées maliennes et de les discréditer vis-à-vis des populations et de la communauté internationale, déplore Diop. Sur le retrait du Mali du G5 Sahel, Diop a été on ne peut plus clair. Je voudrais leur rappeler qu'il s'agit là d'une décision souveraine du Mali en réponse aux violations des traités fondateurs de l'organisation, à la politique de deux poids deux mesures et aux ingérences extérieures hostiles à l'égard d'un État membre fondateur. Selon lui, le retrait du Mali a été formellement notifié aux instances du G5 Sahel. Au Mali, Barkhane a renforcé les terroristes avant son départ de Ménaka. Les militaires français ont cédé ce lundi à l'armée malienne la base de Ménaka, une localité située dans le nord-est du pays, selon les médias. Cette position militaire, en vue de lutter contre les groupes armés terroristes, était occupée par la force Barkhane. Il faut noter que des contingents de la force européenne Takuba étaient aussi installés dans cette même ville de Ménaka. C'est au total plusieurs centaines de militaires, dont des forces spéciales, qui font leur bagage pour le Niger. Ce retrait de la force Barkhane s'inscrit dans la réarticulation des forces françaises et européennes vers le Niger. La vaste redéploiement de l'armée française et européenne doit prendre fin en principe cet été, selon ce qui avait été annoncé par le président français Emmanuel Macron. Cela dit, ce ne sera plus une affaire de charnière attribuée aux forces armées maliennes qui sera à l'ordre du jour des militaires occidentaux, mais bien des attaques terroristes. En effet, les Occidentaux n'ont pas attendu de vider la base sans avoir mis en place un plan de déstabilisation. Lorsque Barkhane a lâché la base de Gao, les militaires français comptaient sur l'affaire de charnière pour discréditer l'armée malienne. Mais cette fois-ci, le plan a l'air d'être différent. Ces derniers jours, beaucoup de dirigeants occidentaux parlent de possibles offensives de la part des groupes donc terroristes à Ménaka. Les pays occidentaux aspirent à garder en Afrique leur zone d'influence plutôt qu'à résoudre les problèmes de la région, comme a déclaré lundi l'adjointe du représentant donc permanent de la Russie auprès de l'ONU, lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Mali. Certains se battent contre le terrorisme correctement à l'aide de prétendus partenaires démocratiques, alors que d'autres le font de façon trop cruelle, en coopération avec la Russie, a indiqué la diplomate. L'Occident tient davantage à garder ses zones d'influence plutôt qu'à aider les Africains à résoudre leurs problèmes. Nous regrettons que les acteurs extérieurs utilisent leurs canaux d'influence dans les structures multilatérales et notamment dans le cadre du G5 Sahel afin d'exercer leur pression sur le Mali, a-t-elle déclaré. Selon elle, la réaction négative de l'Occident au renforcement de la coopération russo-malienne est une nouvelle manifestation de ses approches néocoloniales et de la politique de deux poids deux mesures pratiquée par les anciennes métropoles. Nous assistons donc aux allégations malhonnêtes sur de prétendues représailles des forces maliennes avec la participation d'instructeurs russes menés sur les civils du village de Moura. Nous assistons également à une campagne de désinformation sur la découverte de fosses communes près de Gossi, a-t-elle annoncé, et ce n'est pas la première fois que la Russie critique les Occidentaux pour leur comportement en Afrique. Le mécontentement de la France face à l'attitude des dirigeants maliens de solliciter l'aide de structures extérieures de protection et de sécurité n'est rien d'autre qu'un retour à la pensée coloniale dont les Européens auraient dû se débarrasser depuis longtemps, a lancé donc le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov à l'occasion de cette visite effectuée par son homologue malien Abdoulaye Diop. D'ailleurs, les offensives terroristes ont déjà commencé ce dimanche, aux environs de 3h du matin. Des individus armés non identifiés ont assassiné le chef de fraction du nom de Mantou Oul Najim de la communauté arabe. La femme de la victime aurait été blessée également. Cet acte inhumain s'est déroulé dans un village de Ménaka. En d'autres termes, les Occidentaux ont visiblement pris le temps de renforcer des groupes terroristes afin qu'ils attaquent dès le départ de Barkhane de Ménaka. Mais l'armée malienne continue toutefois sa lutte contre le terrorisme et reste sur ses gardes. Après plusieurs attaques terroristes dans les zones de Ménaka, qui ont nécessité l'intervention des FAMA en collaboration avec la coalition Gatia-MSA, les autorités militaires ont décidé de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité qui seront basées dans cette région. De ce fait, ce dimanche, une longue colonne de véhicules militaires et d'armes sophistiquées est entrée dans la ville de Ménaka. Comme le dit le premier ministre malien Choguel Maïga, dans le domaine de la sécurité, il affirme que même les détracteurs de la transition reconnaissent une forte amélioration dans ce domaine avec la montée en puissance des FAMA et il reconnaît néanmoins les quelques cas d'attaque isolées de la part des groupes armés terroristes qui cherchent à reconstituer après des séries de défaites face aux FAMA. Et il dira sur le plan de la gouvernance que l'État a considérablement réduit son train de vie avec certaines dépenses réduites des ministères jusqu'à hauteur de plus de 70%. Selon lui, une bonne partie de l'argent économisé dans la réduction a permis d'aider l'armée, augmenter les salaires des fonctionnaires et même tenir face aux sanctions de la CEDEAO et de la communauté internationale jusqu'à 6 mois, ce qui constitue un miracle aux yeux de beaucoup de spécialistes.
À son article 1er, le décret du président de la transition indique « sont et demeure abrogé le décret du 16 juillet 2012 portant cession des actifs d'une partie du complexe textile de Sanoya formant les lots 1 et 2 du plan d'aménagement du domaine de la société ODP et le décret du 3 février 2017 portant attribution du lot 3 du complexe de Sanoya à la société Hydro Mine Internationale. En son article 2, le décret du colonel Mamadi Doumbouya précise que le gouvernement de la République du Guinée se réserve le droit de privatiser ses actifs conformément à la loi L2001-018-AN du 23 octobre 2021 portant sur la réforme des entreprises publiques et le désengagement de l'État. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, s'est dit préoccupé par la forte tendance inflationniste et le risque de pénurie de plusieurs denrées alimentaires, dont le blé en Afrique, une tension accentuée par la guerre en Ukraine. L'ouverture, ce lundi 13 juin 2022 de l'Afrique CEO Forum a été saisie par le président ivoirien Alassane Ouattara pour partager sa préoccupation quant à la situation alimentaire mondiale de façon générale, en Afrique plus particulièrement. Nous sommes préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et la disponibilité pour l'Afrique de certains produits, comme le blé, les engrais et bien sûr par la poussée inflationniste, a alerté le dirigeant ivoirien. Citant l'exemple de l'Inde qui a interdit les exportations de blé, Alassane Ouattara déplore une telle situation inflationniste qui, dit-il, pousse les gouvernements et les entreprises à réévaluer leur dépendance aux réseaux internationaux. C'est réellement une remise en cause de la mondialisation et de la notion du commerce mondial. Cette situation a été accentuée par la crise en Ukraine, dans une Afrique qui peine à se relever de la pandémie de coronavirus. L'Inde, de par ses expériences dans le ferroviaire, mode de transport en commun parmi les plus utilisés dans le pays, continue d'être sollicitée en Afrique pour le développement de ce secteur, au même titre que les multinationales européennes et américaines. La société indienne de conseil et d'ingénierie en infrastructures de transport, RITS, filiale de Indian Railways, a signé mardi un protocole d'accord avec Grand Train du Sénégal pour établir une coopération technique visant à stimuler le développement de l'industrie ferroviaire sénégalaise. Le partenariat vise à faire bénéficier à GTS SA de l'expertise de la firme indienne sur plusieurs plans, notamment au niveau de la gestion opérationnelle. L'acte signé couvre également la fourniture de matériel roulant, le développement des infrastructures ferroviaires, des couloirs de fret et des gares de passagers dédiées, la modernisation des ateliers de maintenance, des solutions informatiques pour les opérations ferroviaires, ainsi que la mise à niveau de la signalisation des télécommunications et des systèmes de surveillance ferroviaire, précise le communiqué de presse de RITS, en date du 8 juin 2022. Les chefs des délégations des deux pays ont exprimé leur volonté à assainir les mauvaises pratiques à leurs frontières communes ce 13 juin 2022 à Yaoundé. La frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine est longue de 797 km. En effet, elle est située à l'est du Cameroun et à l'ouest de la République centrafricaine. Des menaces et autres conflits multiformes sont souvent enregistrés de part et d'autre de cette frontière commune, mettant en mal la cohabitation pacifique des populations camerounaises et centrafricaines. Par ailleurs, l'infiltration des rebelles centrafricains à l'est du Cameroun. D'où les discussions qui s'ouvrent ce lundi à Yaoundé. L'objectif étant de poursuivre le processus de démarcation et de l'élimination de lesdites frontières afin de garantir l'intégrité territoriale de chaque pays. Il s'agit des assises de la 5e session de la commission ADHOC des frontières et de la 2e session de la commission mixte permettant de sécuriser la transfrontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine ce 13 juin à Yaoundé.